Hein, on a commencé à poser les difficultés dans les frontières qui se diluent entre mythes et normes. Jacques a attiré mon attention pendant la récré sur quelque chose d'important, hein, que peut-être je n'avais pas suffisamment souligné dans ce que je vous raconte aujourd'hui. Donc je peux vous le rapporter vite fait. Et si c'est un peu redondant après, ce n'est pas un problème. Actuellement, dans les établissements, d'une part, les gens qui travaillent dans les établissements se sentent beaucoup plus... ils ont un sentiment de moindre protection. Hein, parce que l'établissement, effectivement, la désinstitutionnalisation de cette forme d'institution affaiblit les établissements. Affaiblit l'institutionnel et affaiblit les établissements. Donc, il y a ce que je ressens chaque fois que je vais dans superviser les équipes que je supervise, de plus en plus, c'est ce sentiment d'insécurité. Et en plus, Jacques a attiré mon attention sur une chose qui est patente aussi, hein, c'est que l'horizontalisation du hiérarchique. Le hiérarchique est en train de s'horizontaliser. L'exemple que je vous donnais là, ça fonctionne effectivement à partir de hiérarchique verticale. Cette horizontalisation du hiérarchique, elle devient peu à peu une exigence pas nécessairement consciente, d'ailleurs même à mon avis plutôt totalement non consciente, de la part des professionnels vis-à-vis de leur direction, par exemple. Mais là, on est devant quelque chose d'extrêmement contradictoire, parce qu'on n'est pas des mutants, c'est bien notre problème. C'est que d'une part, comme nous sommes influencés par l'horizontalisation de l'hiérarchie, nous avons une exigence nous exigeons de la part de nos directeurs des comportements identiques aux nôtres concernant les marques de respect. Dans le vertical, le respect est unilatéral. Hein, c'est-à-dire, dans notre monde à nous, le hiérarchie verticale est une machine à produire et à reproduire indéfiniment un respect unilatéral. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une prescription très très nette faite aux inférieurs hiérarchiques de montrer des marques de respect, c'est-à-dire de soumission, en fait, hein, aux supérieurs hiérarchiques. Et il n'existe aucune prescription sociétale faite aux supérieurs hiérarchiques de montrer des marques de respect aux inférieurs hiérarchiques. Hein. Ça s'est adouci au fil des siècles. Hein. On n'est plus à 450 avant Jésus-Christ, où le père de famille avait droit de vie et de mort, tout d'un coup, droit de vie et de mort sur sa femme, ses enfants et ses esclaves. Hein. Mais ça évolue doucement. Et à l'heure actuelle, on est derrière entre deux chaises. C'est-à-dire qu'à la fois, nous exigeons de la part des gens qui ont un poste hiérarchique par rapport à nous, une mimétique, c'est-à-dire des marques de respect identiques, une danse qui serait la même que la nôtre. Et en même temps, s'ils acceptent d'avoir cette danse-là, on a le sentiment qu'ils ne peuvent plus nous protéger, parce qu'ils sont les mêmes que nous. Donc on leur dit qu'ils sont des gros nuls et qu'ils ne savent plus nous protéger. Et puis s'ils restent en position verticale, on dit que c'est des salopards qui cherchent à nous écraser. Hein, c'est-à-dire qu'en ce moment, il y a une espèce de chaotisation dans les établissements, de chaotisation de la danse. Hein, ce que j'appelle la danse, c'est la manière dont se propagent et se diffusent les normes et les valeurs. Oui.
Par rapport à ça, on peut faire aussi le parallèle entre le jeune et le parent, ou le jeune et l'éducateur, qui demande aussi une marque d'égalité, mais qui, je veux dire, demande toujours en permanence d'être protégé, et donc on est aussi de la même manière que dans une position d'insécurité en tant qu'intervenant par rapport à ça, et de questionnement très très fort.
Alors, pas de problème, j'ai une réponse pour ça. Elle va me dire tout à l'heure, mais effectivement, oui, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup interrogé, mais bon, il y a des éléments de réponse que d'ailleurs nous commençons à mettre en œuvre sans même le savoir. Vous allez me dire tout à l'heure comment vous voyez ça. Ah ben c'est déjà passé là. Là, comment ça se fait que ça a défilé comme ça? Là. Ah oui, on y est. Alors, l'institut est l'institut. Donc, pour nous protéger, le problème, c'est que tout ce qui est en face de nous est facile, et qui ne correspond pas à notre danse, on le vit comme déviant et on contre-attaque. En même temps, à notre insu, en tant que professionnel, nous commençons à avoir des exigences de type mutant, en ce qui concerne en particulier la danse, c'est-à-dire le respect horizontal. Comme vous le disiez tout de suite, il est évident que les enfants et les adolescents ont cette exigence-là, mais eux, ils sont mutants. Pour eux, ils sont façonnés par ça. C'est-à-dire que nous, on est entre deux chaises, on est oscillant, on est chaotisé. Eux, ils ne le sont pas. C'est-à-dire qu'eux, ils sont façonnés respect horizontal, et ils attendent de nous des comportements hiérarchiques horizontaux. C'est ce qui perturbe les dames de crèche, ça. C'est-à-dire que quand elles me disent « Regardez comme ils me regardent !» La gamine de 2 ans et demi, elle regarde comme ça. Et les dames de crèche qui étaient habituées à ce que les enfants de 2 ans et demi ne regardent pas comme ça, elles se disent « Mais pourquoi ils me regardent comme ça? C'est quoi cette histoire ?» Et puis comme je disais tout à l'heure, ils se mettent, dès qu'ils savent parler, ils se mettent à négocier, à discuter. Hein? Effectivement, nous, on emboîte peu à peu un certain nombre de ces comportements-là. Mais en même temps, il nous déstabilise. Alors, le besoin de protection, alors pour le besoin de protection dont les enfants ont besoin, on va voir qu'on peut avoir, nous, une réponse adéquate vis-à-vis d'eux. En ce qui concerne notre rapport, nos rapports hiérarchiques, à l'heure actuelle, ça semble un petit peu sans issue rapide, en ce sens que nous n'allons pas muter. Soit on est mutant, si j'ose dire, soit on est influencé par la mutation, mais on garde notre façonnement initial. On peut le travailler, c'est ce que nous nous employons à faire, évidemment, mais nous nous apercevons assez régulièrement que notre façonnement nous rattrape. Moi, je le vois me rattraper à chaque fois que je garde mes petits-enfants. Chaque fois que j'ai un petit-enfant, je m'aperçois de la manière dont je suis façonné, parce que je passerai mon temps à tout leur interdire. Ce que je ne fais évidemment pas, mais ce que j'essaie de ne pas faire plus précisément. Mais c'est dans ces moments-là, hein, dans ces moments de danse-là, que je m'aperçois effectivement que malgré tout le travail que je peux faire là-dessus, ça me rattrape assez régulièrement. Donc cette machine déréglée, hein, c'est-à-dire un instituant qui est en train de disparaître mais qui se défend mordicus face à un institué qui est en train d'émerger de manière forcément un peu chaotique, hein, c'est quelque chose qui, au niveau des établissements, donne cette chaotisation de la mimétique. C'est là-dessus que j'ai attiré mon attention tout à l'heure. Hein. C'est qu'effectivement, on a une exigence mimétique, c'est-à-dire de comportements identiques qui ne posaient pas problème, c'est-à-dire que quand deux messieurs, par exemple, se savent socialement égaux, ça ne les gêne pas du tout de mimétiser. Du tout. Hein, c'est-à-dire que en tant qu'égaux, il est normal que nous ayons des comportements tout à fait identiques. Deux dames aussi, entre messieurs et dames, dans notre monde, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Parce que là, il y a du hiérarchique aussi. Hein. Vous êtes des inférieurs, j'ai remarqué. Hein. Je suis courageux hein, de dire ça. Plutôt inconscient, mais bon. c'est de la conscience. Si on n'est pas assez nombreux pour se défendre. Hein.
Parce qu'on a appris
Il est inférieur. Mais ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui. Mais s'il y a tant de sociétés où les hommes se sont beaucoup démenés pour soumettre les femmes, pour les amener à accepter de se soumettre, c'est que les hommes ont toujours une peur bleue des femmes. Mais oui, faut pas l'oublier, les hommes ont peur des femmes. Vous ne saviez pas ça? Ah si, vous le saviez. Hein. Bon. Je le savais même bien. Et pour avoir moins peur des femmes, ils ont trouvé une solution qui consistait à les soumettre. Et à partir de l'instant où elles acceptent de danser de cette manière-là, on se sent vachement mieux. Ouais. Et le problème aujourd'hui, c'est que l'horizontalisation du hiérarchique fait de nous des égaux complets. Hein, dire homme-femme parfaitement égaux. Ça pose un certain nombre de problèmes aux messieurs, évidemment. Mais bon, je ne sais pas si on aura le temps d'aborder ces choses-là. Alors, le contenu de la relation. Dans ce problème. Ah, mais oui, j'étais déjà passé là. Ce face-à-face, instituant, ce dérèglement mimétique, ce dérèglement de la danse, hein, puisque non seulement on est face à des enfants et des adolescents qui, eux, sont façonnés pour danser différemment de nous, c'est-à-dire pour promouvoir déjà des normes et des valeurs différentes des nôtres, parce que c'est ça la danse. Hein. C'est là-dessus que j'essaie d'attirer votre attention aujourd'hui. C'est à quel point nous sommes des vecteurs de transmission, de pérennisation de normes et de valeurs dans notre travail en tant que professionnel, pas seulement dans les familles, mais en tant que professionnel. Et dans cet espace-là, le contenu de la relation, le travail dans l'établissement, puisque on est dans l'établissement pour travailler en général, le travail va passer au second plan. Parce que tant que la danse n'est pas suffisamment accordée entre deux individus, ils ne peuvent pas passer au contenu de la relation. C'est ce qui fait, par exemple, que à l'école, on travaille de moins en moins. C'est-à-dire que le temps d'enseignement, si on chronométrait le temps d'enseignement dans une classe de 5e ou 4e, etc., on s'apercevrait qu'il a diminué d'au moins un tiers. Le nombre d'heures est le même, évidemment, mais le temps d'enseignement a diminué d'un tiers et il est remplacé par la lutte, par un temps d'accordage qui n'en finit pas de ne pas s'accorder. Hein? Ça, c'est une chose importante. Hein, le problème, c'est ce qu'on appelle la définition de la relation. Hein, ça, c'est une invention superbe de Gehrelli, un des premiers petits camarades de Gregory Bateson à Palo Alto. Hein, il y avait Bateson, il avait embauché avec lui Haley, Don Jackson et John Wickland. Et c'est ce petit quatuor qui nous a offert la théorie de la schizophrénie en 1956, hein, en même temps qu'une théorie de la communication absolument superbe, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, hein, parce qu'ils ont réussi à la décrire d'une manière qui peut traverser toutes les mutations. Alors, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Alors, effectivement, ce qu'on appelle définition de la relation, c'est ça, c'est que chaque fois que deux personnes, vous ne pouvez pas y échapper à ça, hein. Chaque fois que vous entrez en relation avec quelqu'un, vous lui faites une proposition de définition de la relation pendant qu'il est en train de vous faire une proposition de définition de la relation. Et on ne peut entrer dans le contenu de la relation qu'à partir de l'instant où les deux propositions sont suffisamment accordées. Ce qu'on a appelé la crise d'adolescence, c'est typiquement une illustration d'un accordage impossible pendant un certain temps entre une proposition de définition de la relation du parent et une proposition de définition de la relation d'un adolescent. Vous savez que dans l'univers systémique, on préfère dire crise familiale liée à l'adolescent d'un de ses membres. Hein, puisque c'est, la crise, elle concerne tout le monde, c'est pas l'adolescent. Donc on ne peut pas aborder les contenus de communication tant que l'accordage n'est pas suffisant. Mais c'est partout. C'est partout ça. C'est-à-dire que vous entrez dans un magasin, vous faites des signaux au client, toi, marchand, de, etc., etc. Et en face, vous avez quelqu'un qui vous fait des signaux, moi, marchand, de, toi, client. Et quand ça ne se fait pas, on le voit instantanément. On dit, je ne reviendrai pas dans ce magasin. On a tous vu des gens, effectivement, qui ne savent pas nous faire une contre-proposition de définition de la relation adéquate en tant que vendeur, marchand, etc. Je ne reviendrai pas là. Dans mon patelin, il y a deux boulangers l'un en face de l'autre. Il y en a un qui est toujours vide, l'autre il y a la queue devant tous les jours. Et c'est clair que j'ai essayé en face et je n'ai pas envie d'y retourner. Il y a là-dedans une dame qui vous reçoit avec condescendance, hein, comme si vraiment, s'il vous plaît madame, est-ce que vous pourriez s'il vous plaît me rendre du pain? Et elle hésite. Est-ce que je vais lui vendre? Est-ce que je ne vais pas lui vendre? Et c'est toujours vous. Et en face, il y a un mec qui est là à son fournil avec des petites nanas qui ont des grands sourires, etc., etc., qui savent effectivement répondre à nos propositions de définition de la relation. Bon, comme ça. Alors, une des questions qu'on peut se poser, est-ce qu'il y a un moi institutionnel? Alors, sachant que la communication, ça c'est toujours, c'est sur Jelly qui nous donne ça. Non, je croyais que je l'avais mis. On trouve ça dans un bouquin de Jelly qui s'appelle Stratégie de la psychothérapie. Elle nous dit quoi? Elle dit, pour communiquer, on est obligé de passer par ces quatre niveaux. Je dis quelque chose à vous dans cette situation. Alors lui, il avait mis en évidence que selon la manière dont on traite chacun des quatre niveaux, on va aboutir à des modes de communication particuliers. Et lui, il avait mis en évidence que les familles à transactions schizophréniques, rappelez-vous, répondaient d'une manière toujours la même à ces quatre questions. Vous rappelez des cinq questions que Jelly se posait systématiquement et qu'on a intérêt à se poser tout le temps face à une famille? Non. Si? Non. Alors, la première question, c'est... est-ce que les membres de la famille qualifient leur propre communication? La deuxième question, c'est est-ce que les membres de la famille qualifient les communications des autres? La troisième question, c'est qu'en est-il du leadership dans la famille? La quatrième question, c'est la question des alliances dans la famille. Et la cinquième question, c'est l'acceptation ou pas du blâme pour ce qui va mal. Et il s'était aperçu que dans les familles à transactions schizophréniques, personne ne qualifie ses propres communications, personne ne qualifie les communications d'autrui. Le combat pour le leadership est permanent sans que chacun ne l'affiche jamais. Une alliance affichée à un niveau est toujours dénoncée à un autre niveau. Et le blâme pour ce qui va mal est toujours refusé. Et ça a été très intéressant, ça, parce que avant ces remarques-là, les gens qui travaillaient avec les familles à transactions schizophréniques disaient le problème de ces familles, c'est qu'il n'y a pas de règle. Alors qu'en fait, ils obéissent à une règle extrêmement stricte, celle-là. Et qu'à partir de l'instant où on a pigé qu'ils ne peuvent pas ne pas obéir à ces cinq injonctions, on peut commencer à travailler avec eux. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec des familles comportant un patient schizophrène. Ouais, on peut avoir des résultats intéressants, vraiment. en matière de l'absence de rechute, par exemple, ou même quand on s'y prend assez tôt, en matière de rémission extrêmement stable. Donc là-dessus, c'est vraiment intéressant de pouvoir travailler à partir de ces règles-là. Mais bon, je digresse. Donc, nous, il me semble bien que quand on est en établissement, quand nous sommes de la parole institutionnelle, c'est ça notre problème, c'est que le moi institutionnel. Alors je dirais, oui, nous avons un moi institutionnel. Et quand nous sommes les professionnels dans un établissement, c'est notre moi institutionnel qui parle, à notre insu. Alors, tant qu'il n'y avait pas de mutation, ça ne posait pas de problème majeur, parce que c'était la dynamique prescrite. Ça devient un problème aujourd'hui, parce qu'il y a ce combat entre l'institut et l'instituant. Donc on est, là j'ai paraphrasé Lacan, parce que Lacan il avait déjà paraphrasé... Picasso. Lacan il disait, moi la vérité je parle. Il rigolait. Et nous, mais sans rigoler cette fois, parce qu'on ne s'en rend pas compte, nous, on est toujours dans « moi, l'institution, je parle ». Et on ne sait pas, en plus. « Moi, l'institution, je parle ». Alors, on sait, parce qu'on a travaillé en tant que systémicien, et ça, c'est encore des acquis que Gregory Bateson nous a offerts, hein, quand il dit « tout message est aussi une injonction ». C'est marrant parce qu'on le vit tout le temps. On le vit tout le temps. C'est-à-dire que quand on parle à quelqu'un, il y a le discours audible comme ça, et puis ça véhicule toujours une injonction à faire ce qu'on a envie qu'il fasse, évidemment, ou qu'il pense ce qu'on a envie qu'il pense. C'est ce que je suis en train de faire. Alors, chacune de mes phrases est une injonction à vous amener à penser ce que j'ai envie que vous pensiez. Ça ne marche pas beaucoup, je le sais, hein. Mais le problème, c'est qu'on essaye quand même, hein. C'est comme ça. Et Bateson, il nous dit ça. Je le lisais l'autre jour, et je retrouve cette phrase qui colle bien avec ce que je suis en train de travailler. Il dit, ceux qui pensent, c'est le système entier engagé dans un processus d'essai-erreur et qui est composé de l'homme plus son environnement. Et là, précisément, on est devant un gros problème à ce niveau-là. C'est-à-dire que le système constitué des hommes, des humains et de leurs environnements, est en train, parce que l'environnement, pour ce qui concerne Bateson, ça comprend l'éthos et l'éthos, évidemment. Bien sûr. Notre problème à nous, c'est que effectivement, la pensée, notre pensée, hein, telle qu'elle a émergé, telle qu'elle émerge en permanence, qu'elle réémerge en permanence du système dont nous sommes des parties composantes, eh bien, elle est en train de se transformer chez nos mutants et qui ne sont jamais qu'un symptôme de l'émergence d'un nouvel instituant. Les mutants, c'est ça, ce sont les éléments émergents d'un nouvel instituant. Alors, comme je vous disais, je ne sais pas si je vous disais d'ailleurs tout à l'heure, le processus essai et erreur, on n'aime pas trop, on le remplace le plus souvent, et même très très souvent, par le niveau 2 de l'apprentissage. Enfin, ça fait partie du modèle de la communication Bateson et compagnie, les catégories d'apprentissage niveau 0, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Tout ça, vous le trouvez dans leur article. Sur la théorie de la schizophrénie. Ça vaut le coup de le relire de temps en temps, ne serait-ce que pour leur théorie de la communication. Et ce niveau 2 de l'apprentissage, il nous débarrasse d'une part de laisser erreur, et il fait de nous des transmetteurs efficaces des normes et des valeurs institutionnelles. Parce que toutes nos petites boîtes, de catégories sont aussi des petites boîtes qui contiennent des valeurs et des normes institutionnelles. Par exemple, j'ai noté ça ce matin en me réveillant. Oui, un peu, j'ai pensé à vous. Et chaque fois qu'un adulte dit à un ado, arrête de me parler comme si j'étais ton copain. Chaque fois qu'un adulte dit à un ado, enlève ta casquette quand il parle, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il transmet et pérennise des normes et des valeurs. Alors, quelles normes et quelles valeurs? C'est tu as oublié que tu es un inférieur hiérarchique par principe face aux adultes, et que tu dois te comporter en montrant des marques de soumission et de respect suffisant à tout adulte s'adressant à toi, qui lui te montre des marques de supériorité verticale. C'est ça qu'on transmet à chaque fois. À chaque fois qu'on articule quelque chose qui relève pour nous de la politesse de base, eh bien, nous sommes en train de transmettre essentiellement des normes et des valeurs. Ça, vous connaissez ça par cœur, c'est-à-dire dans notre monde à nous, relation complémentaire, la relation, c'est ce qui est chaotisé à l'heure actuelle. C'est ce sur quoi j'ai attiré mon attention tout à l'heure à propos de la mimétique. C'est que dans notre monde à nous, quand nous sommes face à un supérieur hiérarchique dans un établissement, nous on a des comportements complémentaires bas. Et on attend de lui des comportements complémentaires hauts. Mais en même temps, comme on est influencé par l'horizontalisation du hiérarchique, on n'est plus clair du tout à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins, face à nos directeurs par exemple, enclin à montrer des comportements complémentaires bas, et on attend de plus en plus de lui des comportements mimétiques, égalitaire, tout en lui reprochant s'il accepte, dans la mesure où on ne se sent plus protégé à ce moment-là. Et donc, quoi qu'il fasse, il se fait enculer. De ce côté-là, c'est réglé. C'est-à-dire, ce qui a considérablement accru le caractère maltraitant des établissements entre professionnels. Puisqu'en fait, comme de toute façon, le directeur ne peut pas avoir la bonne posture. S'il est vertical, ce n'est pas la bonne posture. S'il est horizontal, ce n'est pas la bonne posture. Donc on se met instantanément dans une relation symétrique et une relation d'hostilité, de compétition. Et c'est ce que nous faisons aussi avec les enfants et les adolescents. Alors c'est vrai que, vu sous cet angle, je me dis que l'institution, c'est une machine relativement pauvre. Je dirais même par nécessité, puisque c'est une garantie de fonctionnalité, si j'ose dire. Puisque la fonction de l'institution, classe d'objets, à travers l'ensemble des établissements, ça consiste essentiellement, il me semble m'apercevoir aujourd'hui que c'est sa fonction majeure à l'institution, c'est de transmettre et de rappeler en permanence la norme instituée. Et cela à chacune des interactions avec les usagers. C'est ça qui est très fort. Alors j'avais travaillé ça il y a longtemps avec la notion de petite claque sur la tête. Ça vous dit quelque chose, ça? Non?
L'article est sur le site.
Vous n'avez pas lu mes articles. Donc, ça va me donner maintenant, mais ça prend une allure différente. le travail sur le petit cas sur la tête, oui, je l'ai vu, il est sur le site de base. Mmh. Le travail sur les petits cas sur la tête, ça a démarré comme ça. À l'époque, je supervisais de façon assez intensive des équipes éducatives qui s'occupaient d'enfants et d'adolescents handicapés mentaux. Et on avait la possibilité, et c'était vraiment tout à fait passionnant, parce que la directrice qui m'avait fait venir m'avait donné les moyens à toutes, il y avait 8 équipes là-dedans, je supervisais les 8 équipes, ce qui se fait rarement, et tous les 15 jours en plus. Elle faisait ça pendant plus de 10 ans. Donc en fait, ce qu'elle attendait de moi avec eux, c'est qu'on construise sans arrêt des modèles éducatifs innovants. Elle le soutenait. C'est plutôt rare, ça, je veux dire. J'ai passé vraiment 10 années de ce côté-là, de façon vraiment très agréable. Alors, à un moment donné, on travaillait donc avec des gamins handicapés mentaux et autistes. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je devais être un peu déprimé ce jour-là, je me dis, mais on n'arrête pas de se défoncer, d'innover, de créer des petits moyens, des techniques, des outils nouveaux, et nos résultats sont vraiment tout petits. Tout petits. Et je me dis, il faut d'une hypothèse par rapport à ça. Et alors je me suis dit, l'hypothèse, c'est que nous avons à notre insu des comportements qui sabotent nos propres efforts. J'en parle aux éducs. Et alors la première équipe à laquelle j'en parle, je dis, voilà, il faut qu'on réfléchisse à ça. À l'idée que nous aurions des comportements qui sabotent nos propres efforts. Et un éduc, comme ça, du tac au tac, me dit, je sais de quoi vous parlez. Moi, je ne savais pas, donc j'étais bien content. Et il dit, voilà, hier soir, je vois, on va l'appeler, je ne sais pas, Daniel, je vois Daniel, qui est un garçon, le bon débile. Le bon débile psychotique, il avait tout le pauvre gars. C'est-à-dire que, en fait, c'est un enfant du placard. Après, c'est-à-dire que sa mère l'avait confié à une nourrice au black, et un an et demi après, elle s'est aperçue qu'elle travaillait à plein temps. C'est-à-dire que la nourrice, dès que la mère était partie, enfermait le monde dans un placard, partait bosser, revenait à midi, lui filait un bidon, repartait bosser, elle prenait au placard, etc. Et donc, il en est sorti comme ça, quoi. C'est-à-dire débile et psychotique. Donc, c'est le gars dont les éducs n'attendaient pas grand-chose du point de vue des compétences, quoi. C'est des éducs très sympas. Hein. Et l'éduc me dit, voilà, hier soir, je dis à Daniel, il faudra que demain que tu ailles à la lingerie chercher ton linge parce que j'ai vu que ton casier était rempli de linge propre. Et me dit, 10 minutes après, je vois Daniel revenir avec son linge. Or, la lingerie était fermée parce que il était 18h, on avait les gens gagner les pavillons, etc. Et alors, en même temps que j'étais en train de me dire, waouh, pour aller récupérer son linge, il a fallu qu'il prenne la clé qui est sur le. Qui était dans la serrure des éducs, sur le trousseau de clés des éducs, qui était dans la serrure du bureau des éducs. Donc il a fallu qu'il prenne le trousseau, qu'il ouvre la lingerie, qui était à l'autre bout de l'établissement, qu'il ramène son linge, et en même temps, il me dit en même temps que j'étais en train d'ouvrir la bouche pour dire ce que j'allais dire, je voyais qu'il avait déjà remis les clés dans la serrure. Et ce qui sort de ma bouche, c'est « Daniel, je t'avais dit demain !» Et c'est ce qu'on a appelé les petites claques sur la tête. Hein, parce qu'on s'est aperçu qu'en fait, aucune initiative n'était validable si c'était pas une initiative. C'est-à-dire aucun acte de la part des gamins dans l'établissement n'était validé s'il n'avait été prescrit par les professionnels. Tout acte non prescrit par les professionnels, même si c'est un acte particulièrement pertinent et intelligent, recevait une claque sur la tête. Sting. Et là, on a commencé à observer les petites claques sur la tête, et on s'est aperçu que c'était toute la journée. Toute la journée. Ce qui nous a amené à travailler sur ce qu'on a appelé les miracles furtifs. Parce que, parallèlement à ça, il y avait de temps en temps, de la part des gamins autistes, de bons débiles, etc., des comportements particulièrement adéquats et intelligents, qui ne duraient pas. Alors, j'ai appelé ça les miracles furtifs, puis on a commencé à étudier les conditions, les contextes des miracles furtifs. Alors là, c'est la petite claque sur la tête, c'est nous qui l'avons reçue, parce qu'on s'est aperçu que les miracles furtifs n'avaient lieu que quand les professionnels étaient en circuit. Que dans ces conditions-là, jamais autrement. C'est assez intéressant. C'est-à-dire, alors, j'en ai des dizaines d'exemples, mais je pense que vous en avez aussi. C'est-à-dire, un exemple tout bête. Un éduc arrive, l'éduc arrive le soir pour le repas dans le pavillon, les autres sont partis, et l'éduc du soir qui arrive, il a une grippe d'enfer, il est complètement fiévreux, il arrive comme ça, il dit, bon, alors je vais pas bien, il se pose sur une chaise, il s'aperçoit que les débilous prennent les choses en main, font la cuisine, mettent la table, etc., et lui disent, tu viens manger. S'il arrive en pleine forme, ils sont tous là. Et lui, il fait tout le boulot. Et il est obligé d'être tiré, etc. etc. Donc, ces miracles furtifs, on a essayé de les défurtiviser, évidemment. Ça n'a jamais marché. C'est-à-dire que même, il y avait des éducs qui faisaient du théâtre. Alors, on s'est dit, un bon théâtreux, il peut quand même simuler la direction. C'est-à-dire arriver comme ça, mais là, ça n'a jamais marché. C'est-à-dire qu'on voit à quel point, débile ou pas, on a une lecture de l'analogique qui est d'une sûreté extraordinaire. Je dois dire en plus que, très probablement, les débilous ont une lecture de l'analogique de qualité supérieure à la nôtre, pour une raison simple, c'est que comme ils dépendent totalement de nous, et qu'ils sont, eux, dans un espace exclusivement normique, s'ils veulent survivre, il faut qu'ils sachent nous manipuler, parce que vraiment, ils sont foutus. Il faut qu'ils sachent repérer les interstices pour s'y glisser, etc., etc., et voir nos faiblesses, voir nos manies, pour pouvoir simplement survivre. Donc je pense qu'ils sont plus compétents que nous, en général, dans la lecture analogique. Alors, donc, cette illustration des petites claques sur la tête, ça montre quoi, entre autres? Ça montre effectivement qu'à travers des actes qui sont conçus par nous comme éducatifs, on n'a pas du tout le sentiment de les persécuter. On n'a pas le sentiment de les écraser. Quand l'éduc dit « je t'avais dit demain », il s'en est aperçu parce que tout d'un coup ça a tilté parce que je lui proposais l'hypothèse. Je n'aurais pas proposé l'hypothèse, il n'aurait rien tilté du tout, puis il aurait continué, comme tout le monde. Donc là-dessus, c'est vraiment quelque chose C'est vrai que si on accepte cette idée-là, ça réduit considérablement nos prétentions à la créativité, à la liberté personnelle dans l'action, etc. Parce qu'en fait, à ce niveau-là, manifestement, nous n'avons aucune liberté, tant qu'on n'en est pas conscient. Tant qu'on n'en est pas conscient, on n'a aucune liberté. C'est-à-dire qu'on le pratique sans arrêt. On a une petite claque sur la tête, on les pratique sans arrêt. Et d'ailleurs, quand on dit va te laver les dents à nos gamins, par exemple, c'est une petite claque sur la tête aussi. Ça lui rappelle qu'il est en affaire hiérarchique et qu'il doit fonctionner à partir de ses injonctions à ne pas penser. Parce que va te laver les dents, c'est une injonction à ne pas penser. Je t'avais dit demain, c'est une injonction à ne pas penser. C'est quoi une injonction à ne pas penser? C'est une injonction faite à l'autre de se comporter, d'être le prolongement de notre volonté. Va te laver les dents, c'est soit le prolongement de la volonté. Et entre petite claque sur la tête et injonction à ne pas penser, peux vous dire qu'on passe notre vie à ça. Et avec nos enfants et dans les établissements. L'école y compris, bien sûr. Donc, ça, c'est quelque chose, me semble-t-il, d'assez intéressant à repérer, dans la mesure où, je crois bien, et j'ai pu le vérifier d'ailleurs, à partir de l'instant où on le repère, où on se repère le faisant, hein, c'est pas par les autres, nous, hein, à partir de l'instant où on se repère le faisant, on acquiert un espace de liberté par rapport à ça. Et en ce qui concerne les petites claques sur la tête, je dois dire que, avec les équipes en question, où on est habitué à travailler ensemble dans la bonne humeur et de façon très ludique, hein, dans les équipes, ils avaient convenu d'un signe. Parce que comment on ne se voit pas se comporter ? C'est ça notre problème à nous, hein, c'est-à-dire à tous les humains. Un humain ne se voit pas se comporter. Donc ils avaient convenu d'un petit signe. Quand un collègue voyait un de ses collègues donner une petite claque sur la tête, il faisait un petit signe. Juste comme ça, quoi. Enfin, chaque équipe avait inventé son signe. Et l'autre, le voyant, pouvait s'excuser instantanément auprès du gamin. Oh, excuse-moi. Moi, j'étais un peu brutal, là, et il reformulait. Et ça marchait très bien. Donc, il réussissait à diminuer les petites claques sur la tête de plus de moitié en une journée. Ce qui n'est pas négligeable, parce que ça donnait en retour des espaces de liberté et de créativité non négligeables aux enfants et aux adolescents concernés. La Patria Podesta, c'est certainement le moment initiateur du hiérarchique vertical occidental. C'est la première loi écrite à Rome. Ça a été un coup de force, mais quelque chose d'inimaginable quand on y pense comme ça. Première loi écrite à Rome qui définit le pater familias, dans son droit de vie et de mort sur sa femme, sur ses enfants et sur ses esclaves. Ça n'existait pas avant. Tout d'un coup, paf, première loi écrite à Rome, c'est celle-là. Et elle a été vraiment, elle était un élément fondateur, un pilier fondateur de la civilisation occidentale. Puisqu'elle n'a jamais été remise en question avant cette mutation. La patria podesta n'a jamais été remise en question. Le droit de vie et de mort a été un peu disparu, sauf dans les marges. Dans les marges, il ne faut pas oublier que, je ne sais pas ce qu'il en est en Belgique, mais en France, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son conjoint. Hein, donc là, le droit de vie et de mort, dans les marges, il existe toujours. Et, donc ça a été le pilier de l'hierarchie verticale et le pilier de la mise en place du symbole, de ce qui est devenu un symbole phallique, hein, ce qui est devenu le symbole d'un espace patriarcal fort. Qui a disparu. Dans l'espace mutant, il a tout simplement disparu. C'est-à-dire ce que j'appelle l'autorité de mode paternel a disparu dans l'espace mutant. Elle n'existe simplement plus. Ce qui pose d'énormes problèmes dans la mesure, et c'est là qu'on s'aperçoit que la plupart de nos comportements dits éducatifs, voire psychothérapeutiques, sous-tendent le hiérarchie verticale et le pouvoir patriarcal. Qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, ça ne change rien à ce niveau-là. Parce que les vecteurs de cette forme d'autorité, dès l'instant où on est investi d'un espace professionnel qui implique une autorité, qu'on soit homme ou femme, c'est le même type d'autorité qu'on véhicule. Hein, il semble bien qu'une société ne valide qu'une forme d'autorité à la fois. Hein, c'est-à-dire que ça a été l'autorité dite de mode paternel, comme une directrice dans un établissement, elle ne fonctionnait pas différemment d'un directeur, c'est-à-dire pour assumer, quand il s'agissait d'assumer l'autorité et le pouvoir. les différences étaient minimes. Elle avait intérêt d'ailleurs. Elle avait même intérêt à renforcer sa posture d'autorité parce que elle était forcément contestée par les mecs si elle ne la renforçait pas. C'est d'ailleurs très intéressant, hein, si vous écoutez la voix, la tonalité de voix des femmes politiques entre le moment où elles entrent en politique et le moment où elles prennent du grade en politique, ça descend d'un demi-ton. Leur voix s'aggrave. C'est systématique. Alors, la production institutionnelle dans les établissements, je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça, là. Je vous trouve assez silencieuse et silencieux.
On peut ouvrir le débat jusqu'à midi, oui. On peut ouvrir un débat jusqu'à midi.
Oui. On ouvre un débat jusqu'à midi.
C'est une
proposition.
C'est vrai que c'est un peu un constat, je veux dire, de ce qui se passe chez nous. Mais depuis tout à l'heure, on est en train de se poser la question vivement l'après-midi, qu'on ait des réponses, de savoir comment faire, parce que là, ça va vraiment plus du tout. Quoi.
Mais ce que j'aimerais bien que vous me renvoyiez un petit peu comment vous vivez ce que je vous raconte, là, parce que ça a des côtés que moi, j'imagine un peu durs, parce que ça a été dur pour moi. De faire ce constat à ce point-là. Hein. Parce que bon, avec les petites claques, ça fait 20 ans que j'ai travaillé ça, donc j'avais ce niveau-là, mais faire un constat qui m'amène à voir de manière aussi centrale combien nous sommes avant tout dans nos professions des véhicules de normes et de valeurs, plus que l'éducation au sens conscient que nous avons. Hein, puisque consciemment, on n'a pas forcément envie d'être des véhicules de hiérarchie verticale à fond, de mise en soumission, de culpabilisation fondamentale, etc. On n'a pas envie de ça. Et on le fait, et efficacement.
Oui, moi je me demandais un petit peu si on, en étant dans... en sortant de cette soumission à la hiérarchie verticale, si on dit que l'ère familiale va disparaître, qu'est-ce qui va jouer le rôle de surmoi ou de surmoi collectif? Voilà, c'est un peu l'interrogation. Je pose une question et aussi comment faire pour les autres. Mais, voilà.
Oui, alors, il se pourrait bien que le surmoi disparaisse. Enfin, la forme que nous connaissons, la forme de ce moi que nous connaissons, elle est manifestement, construite à partir de la culpabilité fondamentale héritée du religieux chrétien. Et quand on se met à observer les modes de pédagogie classique et d'éducation classique, quand on se met à décortiquer ça, on commence à voir à quel point c'est entièrement fondé sur la certitude qu'un enfant sait se sentir coupable. La pédagogie classique est fondée là-dessus. Les enfants savent se sentir coupables et c'est là-dessus qu'on va fonder la pédagogie. Correction de l'erreur, traque de l'erreur, la faute, on peut mieux faire, etc., etc. Alors, cette forme de surmoi, si j'ose dire, c'est vrai qu'elle est en train de disparaître. Hein. Elle est fondée donc sur la culpabilité fondamentale. Il y a une association de malfaiteurs pour ce qui concerne notre mutation à nous au XVIIIe siècle. C'est-à-dire qu'il y a la permanence, c'est-à-dire la culpabilité fondamentale n'a pas été remise en cause. Le hiérarchique vertical n'a pas été remis en cause par les différentes révolutions du XVIIIe siècle. Enfin, il a changé de concept. Un trou. Association malfaiteur. Ah oui, pardon. Ce qu'on appelle l'épistémologie mécaniciste, hein, ce que le XVIIIe siècle a inauguré, c'est ce qu'on appelle le mécanicisme. Il y a une rupture, comme dans toutes les mutations, il y a une rupture épistémologique. Donc le mécanicisme, qui est illustré en particulier par Newton et par Descartes, hein, c'est-à-dire que Newton et Descartes, Newton donne les petites formules qui mécanicisent l'univers. On n'imagine pas à quel point la petite formule de Newton concernant le fonctionnement de l'univers a totalement transformé le monde. Hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, l'univers devenait une mécanique entièrement prévisible. Et en plus, Descartes nous balance quatre préceptes qui ont construit notre forme d'intelligence. Et quand je vous dis que cette forme d'intelligence n'a pas bougé de réponse, vous verrez quand on va la travailler tout à l'heure, qu'effectivement, nous pensons toujours comme ça. Ce qui montre que c'était très efficace. Parce que c'est très efficace pour la mécanique, mais on s'apprendra de plus en plus que ça manquait d'efficacité pour ce qui concerne l'humain, le vivant en général. Parce que le mécanicisme, il a modélisé le vivant comme une mécanique. Ce que Descartes aussi a contribué à faire, bien sûr. Et il n'est pas le seul à l'époque. Donc, il y a eu cette combinaison entre la culpabilité fondamentale, qui a été même reboostée par le moralisme forcené du XVIIIe siècle, parce que le XVIIIe siècle, curieusement, a été un siècle de production d'une nouvelle morale, insistante. Donc, entre la culpabilité fondamentale, la production d'une nouvelle morale, la production d'une pensée mécaniciste, hein, on s'est trouvé devant un espace de renforcement des modes d'éducation constitués sur la base de la culpabilité fondamentale. L'idée que on part de ça. Ce qui a amené d'ailleurs aujourd'hui, on s'aperçoit que les apprentissages, dont on pensait que les apprentissages relevaient d'une correction progressive d'erreurs. Eh bien, le pédagogique classique, c'est ça. On diminue progressivement les erreurs. Et quand on observe les enfants, je ne parle pas seulement des débutants, dans leurs apprentissages, qu'on appelle l'apprentissage sans maître, eh bien, ils ne peaufinent pas leurs apprentissages en corrigeant des erreurs. Ils les peaufinent en s'appuyant sur ce qu'ils réussissent. C'est complètement différent, mais ça, comme on ne voit que ce qu'on voit, on ne l'avait jamais vu. Pour nous, on apprend en corrigeant des erreurs. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'apprendre en corrigeant des erreurs, imposer ça comme mode d'apprentissage, c'est assez peu productif. C'est peu, voire même plutôt contre-productif. Et toutes les pédagogies dites nouvelles, et même les hauts grands pédagogues qui ne nous intéressent que comme cache-misère, je dirais, comme Montessori, comme Célestin Freinet, comme Dewey aux États-Unis, chaque fois que je vais dans des. On m'invite maintenant dans beaucoup de collèges et de lycées professionnels pour parler de ça. Et chaque fois que. Il y a toujours des profs qui me disent « Oui, mais ce que vous dites, Freinet, qui avait déjà dit ça ?» Je leur dis « Vous faites du Freinet, vous ?» Ben non. Bon, alors, personne ne fait du Freinet. Mais il y a tout, ça sert de cache-misère. On savait. Mais on ne l'a jamais appliqué. Il n'y en avait pas besoin. Ce qui marchait bien, c'était que les enfants savent se soumettre. Et savent se sentir coupables. Donc, il n'y avait pas de raison de changer quoi que ce soit. Donc, notre surmoi, il est à base de culpabilité et de morale. Ce qui semble se mettre en place, puisqu'ils ne sont plus accessibles à la morale, parce que c'est un discours hétéronome et qu'ils sont autonomes. Rappelez-vous, un hétéronome, ça veut dire il y a des spécialistes qui construisent des valeurs et des normes, moi je suis un transmetteur. Alors, c'est ça l'hétéronomie. Je ne construis pas mes savoirs. L'autonomie, c'est je construis mes savoirs et mes valeurs. Et à l'heure actuelle, les petits mutants sont condamnés à ça. Ils sont bien obligés de construire leurs savoirs et leurs valeurs. Alors, on peut supposer que dans 15 ans, quand tout le monde sera mutant, ou dans 20 ans, quand on sera mutant, les choses vont prendre leur cours. Là, ils sont obligés de construire parce qu'ils sont, l'émergence de l'instituant. Mais quand cet instituant sera institutionnalisé, le cours, quoique de façon différente, le cours de la transmission, bien différent me semble-t-il, elle va à nouveau se faire d'une manière, c'est pas du bourbon, parce qu'il n'y aura plus de haut ni de bas à ce moment-là, mais d'adultes à enfants. Alors que là, c'est les enfants qui sont obligés de nous transmettre des nouveaux savoirs et des nouvelles valeurs. Et pour eux, donc, ce qui me semble voir, c'est que, j'en parlais tout à l'heure, c'est que la morale est remplacée par l'éthique, dans la mesure où ils sont fabriqués, eux, individualisés, autonomes, et avec autorité sur eux. Ils ne sont plus accessibles à la morale, mais ils sont obligés de construire une éthique de responsabilité personnelle. Ce qui me faisait dire tout à l'heure, au secours, il faut qu'on se dépêche d'entrer en conversation avec eux pour se pousser mutuellement à l'intelligence de telle façon que les critères qu'ils vont retenir pour construire leur éthique soient des critères socialement suffisamment responsables. Et c'est ce qui me faisait évoquer tout à l'heure les États-Unis, parce que quand on regarde les modes éthiques largement construits aux États-Unis, c'est du genre je t'écrase la tête, mais n'y vois aucune attention personnelle. C'est que le business. J'aimerais pas que nos groupes fassent comme ça, quoi, personnellement. Et s'ils font comme ça, nous aurons une lourde responsabilité. Parce que ça veut dire qu'on aura raté cette mise en conversation. Alors maintenant, je vous ai bien culpabilisé. On va aller manger.
On se retrouve à 1h30 pour reprendre.